Éric Monnel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé, directeur associé du groupe Square. On va parler avec vous eh bien, de nucléaire, d'énergie. Hein. Vous êtes un cabinet de conseil. Alors, le secteur de l'énergie bouge beaucoup et c'est vrai qu'on parle beaucoup du nucléaire puisque ce sont les 5 ans d'un anniversaire tragique, celui de la catastrophe de Fukushima au Japon, catastrophe nucléaire. Est-ce que 5 ans après, on a tiré les enseignements? Est-ce que le secteur nucléaire a tiré des enseignements et quels sont-ils de cette tragédie?
Alors aujourd'hui, en termes d'état des lieux et en termes de capacité qu'a le nucléaire à s'adapter, la situation n'a pas énormément évolué. On en parle beaucoup, mais finalement, il y a assez peu de chantiers nouveaux qui ont été lancés. Aujourd'hui, on a grosso modo 440 réacteurs en cours de fonctionnement dans le monde. On a plus de 50 réacteurs en cours de construction, c'est-à-dire à peu près le même nombre que ceux qui étaient en cours de construction au moment de la catastrophe de Fukushima. Et on a à peu près une centaine de réacteurs, un peu plus, qui ont été arrêtés. Les enseignements qui ont été tirés sont relativement basiques. Le Japon a stoppé ses centrales depuis lors. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de réacteurs qui sont à l'arrêt en attendant de savoir s'ils vont redémarrer ou pas. A priori, à part ceux de Fukushima, tous redémarreront à terme, c'est leur vocation. Et on a des sujets importants qui touchent en particulier un pays très fortement nucléarisé qui est la France, où l'État et les organismes publics qui sont là pour vérifier la sécurité nucléaire sont en train de planifier des interventions massives pour améliorer la sécurité, le niveau de sécurité des différentes centrales nucléaires. Alors ça, la France, aujourd'hui, est l'un des rares pays à avoir réagi. L'Allemagne a réagi aussi en décidant de sortir du nucléaire, ce qui lui vaut maintenant d'avoir à entamer le démantèlement de plus de 20 réacteurs. Il y a un autre grand pays nucléaire dont on parle très peu finalement et qui lui n'a pas du tout réagi et qui est intéressant, sont les États-Unis. Aux États-Unis, on a un parc de réacteurs de plus de 100 réacteurs, 5 en cours de construction, le tout entre les mains d'une douzaine d'opérateurs, donc c'est très différent de la France, hein, où là on a 58 réacteurs dans les mains d'un même opérateur. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, finalement, Fukushima a eu peu d'impact. Autant il en a eu beaucoup en France, parce qu'on en parle beaucoup, même si pour l'instant on n'a pas lancé vraiment de travaux, autant aux États-Unis, il y a eu très peu d'impact. La seule chose que font régulièrement les compagnies électriques américaines, c'est de se diriger vers les sociétés garantissant la sécurité pour leur demander de prolonger dans le temps la durée de vie des centrales nucléaires. Et donc, autant en France, on a un débat sur combien va coûter la refonte du parc avec des chiffres monstrueux entre 50 et 100 milliards d'euros, on ne voit pas tellement ce qu'il y a dedans, autant aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de débat. Et là-bas, les compagnies américaines sont en train de demander des extensions de durée de vie de 40 à 60 ans. Ça se passe, a priori, sans beaucoup d'investissements supplémentaires, voire même commence à anticiper le fait de demander la possibilité d'utiliser des centrales nucléaires classiques, hein, comme les classiques françaises des années 70-80, pour des durées de vie de l'ordre de 80 ans.
Donc là, on est sur un changement, on pourrait dire un changement de modèle économique de l'industrie nucléaire, si on parle de la France, avec ses sécurités nouvelles et ses durées de vie aussi, puisqu'on a entendu parler effectivement de prolongation
Tout
en
à fait.
France. On change le modèle économique, est-ce qu'il est encore...
Alors, on ne le change pas complètement. Disons qu'aujourd'hui, le modèle économique, il est un peu biaisé, hein. Le nucléaire en France, donc c'est grosso modo 80% de l'électricité produite en France. C'est 20% de l'énergie consommée en France, hein. C'est important de relativiser le poids du nucléaire dans le mix énergétique global. Aujourd'hui, EDF se retrouve dans une situation où il va devoir renchérir le prix de son énergie, mais qui est extrêmement bas. Par rapport à tout ce qui se fait en Europe, aujourd'hui, le consommateur français paye son électricité plus bas qu'ailleurs, à un niveau de prix qui est relativement faible. Ce niveau de prix va être amené à remonter. En même temps, il va y avoir des arbitrages à faire. Est-ce qu'on ferme les centrales actuelles? Est-ce qu'on construit des EPR à la place? Est-ce qu'on décide de prolonger les centrales actuelles, ce qui aurait un effet majeur sur la limitation des coûts? Et quel est le niveau de sécurité ou d'insécurité, ça dépend un peu comment on le voit, qu'on accepte concernant le parc actuel? Est-ce qu'on est prêt à mettre énormément d'argent pour le sécuriser, sachant qu'on n'arrivera jamais à une sécurité totale, c'est impossible? Ou est-ce qu'on est prêt à se dire finalement, on a un parc qui est relativement sûr, faisons-le fonctionner tel que. Et avec ça, on peut arriver à anticiper l'arrivée de la prochaine génération, qui arrivera d'ici une vingtaine d'années, de réacteurs moins consommateurs en produits fissiles et surtout moins producteurs en produits dangereux de retraitement.
Alors, il y a toujours, c'est un débat effectivement fort en France, hein. Il y a à la fois un lobby important pro-nucléaire et puis il y a des associations, il y a un vrai débat en tout cas sur le sujet, sur la prolongation, sur l'opportunité pour que les centrales nucléaires effectivement de pouvoir tenir, les questions de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas tout revoir, finalement remettre à plat? Parce que Fukushima, les ingénieurs japonais qu'on a pu écouter, ils ont dit clairement Iran, dans plusieurs reportages, qui n'avait pas anticipé ce qui s'est passé et que le prochain à avoir un accès au nucléaire, typiquement, c'était la France. C'était la France avec ses vieilles centrales, quoi.
Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a déjà eu cet accident nucléaire. On a déjà une centrale qui a eu un gros souci à Saint-Laurent-des-Eaux. Donc bon, à la rigueur, si quelqu'un nous souhaite d'en avoir un, on l'a déjà eu. Donc, et ça s'est plutôt cantonné, malgré tout, à un incident certes grave, mais sans conséquence sur la santé humaine. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il est vrai qu'on n'est pas dans la même situation. On a des risques à anticiper, en particulier des risques sismiques qui ont probablement, dans certains cas, été sous-évalués. De là à se dire qu'on va se retrouver dans une situation type Japon, ça va être compliqué. Les trois accidents nucléaires majeurs qui ont eu lieu depuis la mise en route de cette énergie ont touché un pays où, manifestement, les normes de sécurité étaient très largement insuffisantes, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui n'a d'ailleurs pas survécu à cet accident. Trois ans après, l'Union soviétique a disparu en tant que telle. Le Japon s'est retrouvé dans une situation, effectivement, que personne n'avait pu anticiper, en termes de gravité. Et pourtant, la centrale a tenu le choc pendant quelques jours. Donc, il y a eu quand même une capacité de résistance à un séisme à la fois gigantesque et un tsunami comme on n'avait jamais connu jusqu'à présent. Et puis, il y a eu Three Mile Island aux États-Unis, où là aussi, il y a eu un accident qui a permis aux centrales américaines de rehausser leur niveau de sécurité et de bien mieux anticiper les problématiques liées au nucléaire.
C'est-à-dire qu'on est tout le temps, finalement, en permanence, c'est une course à la sécurité, mais sans avoir de garantie à 100%.
Non. Alors, on n'a pas de garantie à 100%. On a un niveau de risque qu'il faut pouvoir assumer par rapport à une énergie qui est importante pour un certain nombre de pays, mais qui n'est pas fondamentale dans le mix énergétique mondial. Si vous voulez, le nucléaire aujourd'hui, ça représente à peu près 6 à 7% de la production d'énergie dans le monde. Donc, c'est pas non plus une énergie fondamentale, mais elle est très importante pour un certain nombre de pays, à la fois parce qu'elle permet d'avoir des compétences et des filières industrielles préservées, donc une création d'emplois, etc., et d'autre part parce qu'elle permet d'asseoir un certain niveau d'indépendance énergétique qui peut être extrêmement important. On est aujourd'hui dans une ère qui affecte beaucoup le nucléaire, c'est le fait d'avoir une énergie peu chère.
Il n'y a pas de pétrole, effectivement.
On ne garantit absolument pas que dans 6 mois, on n'aura pas un incident dans le détroit d'Ormuz et un baril à $150 dans les 3 mois qui suivent. Donc ça, le nucléaire, au moins, a cet avantage de pouvoir servir d'amortisseur au prix de l'énergie.
Il y avait la question effectivement des EPR, c'est le débat du moment, en disant finalement ça allait être des nouveaux réacteurs plus sûrs, plus effectivement. Et puis quand on voit le coût derrière ces EPR, puisqu'on a aujourd'hui des chiffres 6, 8 milliards, on ne sait pas trop où on va finalement sur le EPR finlandais, sur le EPR français, on ne sait pas trop non plus. On se dit si c'est ça l'avenir du nucléaire, ça paraît économiquement difficile à tenir.
Alors il est économiquement difficile à tenir, effectivement. Le gros problème de l'EPR, c'est le délai. Si l'EPR était construit en 4 ans, déjà, on aurait une vision économique bien meilleure du modèle. Ce qu'on peut constater malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, on se lance dans un EPR qui, effectivement, remonte le prix de l'énergie, mais pas dans des proportions si impressionnantes, et qui est un peu la transition avec un modèle qui permet finalement d'économiser sur la consommation d'uranium et d'économiser sur la production de matériaux en fin de vie. Avec une possibilité quand même de pouvoir se dire qu'on a au passage une centrale qui va avoir un meilleur taux de production pendant une durée de vie qui sera plus longue. Donc le modèle économique aujourd'hui, il est compliqué à monter avec un baril à $30 et il sera beaucoup plus simple à monter avec un baril à $80 ou $90, ce qui a été quand même la vérité du prix de l'énergie pendant les dix dernières années.
Alors la vraie question du moment, c'est aussi de penser à si EDF va pouvoir en France, puisque vous parliez de cet acteur principal en France par rapport à d'autres pays, États-Unis, où il y a d'autres acteurs privés, il y a des acteurs privés. Est-ce que EDF a les moyens de faire cette transition, en tout cas il ne va pas y avoir 10-20 EPR d'un seul coup, mais de pouvoir faire cette transition avec les moyens en capitaux que ça va demander. On voit l'État déjà qui dit on va aider EDF s'il y a besoin. Bon, de toute façon on ne voit pas d'autres solutions.
Alors c'est la vraie question, elle est là en fait. EDF aujourd'hui c'est une entreprise qui est cartelée entre plusieurs demandes de la part de son actionnaire principal et de la part de la société qui l'entoure. Son actionnaire principal ne se comporte pas comme un vrai actionnaire, c'est-à-dire que son objectif est essentiellement de toucher les dividendes. Donc on a un siphonnage régulier de la capacité de financement de la société par les dividendes qui sont remontés au niveau de l'État. Et d'ailleurs, c'est la même erreur qui avait été répétée avec Areva pendant les 7 premières années de la présidence de Lauvergeon. L'État ponctionne plus de dividendes que ne ferait un fonds d'investissement classique. Et il n'a aucun intérêt à avoir une société qui vaut cher. Pourquoi ? Donc EDF a été introduite en bourse à 32 euros. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. La valeur de l'action a été divisée quasiment par 3. l'État, dans sa structure de dette, ne prend pas en compte ses actifs, ce qui est quand même assez incroyable. Donc qu'EDF vaille 1 euro ou vaille 100 milliards d'euros, aucun impact sur la structure de bilan de l'État. Donc aujourd'hui, son objectif, c'est de sortir des capitaux et de dire à EDF, vous mettez en place des compteurs Linky, qui sont un peu antinomiques, c'est rare de demander à une société de mettre en place et d'investir sur des compteurs qui sont là pour faire en sorte qu'elles vendent moins. Il lui demande de charger, de préparer donc une transition sur les centrales nucléaires, le parc actuel, avec des investissements extrêmement importants, sans avoir donné aucune garantie sur le fait qu'effectivement le parc allait pouvoir être prolongé pendant 10 à 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, la SN dit 2018, on verra ce qu'on dit. Donc c'est quand même assez angoissant pour l'investisseur. Au niveau de l'EPR, donc on a eu des demandes extrêmement importantes concernant l'augmentation de la sécurité. On voit que l'EPR de Flamanville n'est pas achevé. Et là, on se lancerait dans la construction de deux EPR dans des délais extrêmement courts en Angleterre, chose qu'on n'aura jamais réussi à faire, donc avec une consommation de cash extrêmement importante. Et tout en demandant à EDF de finalement ne pas amortir sa dette, de continuer à s'endetter à la place de l'État, et de continuer à remonter des dividendes. Moi, je comprends que le DAF, dans ces cas-là, ait dit non, c'est rigoureusement impossible. EDF, mais même en ayant toutes les compétences qu'elle a, aujourd'hui, ne peut pas répondre à tous les défis.
Donc c'est un débat d'ordre politico-économique, pas simplement lié à l'entreprise.
Bien sûr. Je dirais qu'en plus, EDF est une des rares entreprises où sa production et le coût de sa production est maîtrisé par l'État. C'est-à-dire qu'on a... En tant que citoyen, les citoyens n'ont même pas la possibilité d'avoir un libre arbitre entre les différentes énergies proposées. C'est-à-dire qu'on leur propose d'emblée une électricité peu chère, et finalement, la compensation, eh bien, c'est ce manque à gagner d'EDF que je paye via les impôts. D'accord ? Donc quelque part, ce libre arbitre n'existe pas. Le vrai libre arbitre, c'est de dire, voilà, l'électricité, ça coûte tant, ben, je vous laisse arbitrer entre électricité, pétrole, gaz, ce que vous voulez. Mais ce libre arbitre n'existe pas. Donc dans ce biais complet, on se retrouve dans une situation où en France, où le parc nucléaire est l'un des plus importants au monde, on le remet en question de manière régulière. Aux États-Unis, il y a toujours un pays de référence, hein, parce qu'en termes de démocratie, finalement, ça marche plutôt pas mal, on a une dizaine d'acteurs bien éclatés. Certains, les plus petits, ont deux réacteurs, les plus gros ont une douzaine. Qui sont des gens qui ne se trouvent pas confrontés à des problématiques politiques, mais qui se trouvent confrontés avec des énergies extrêmement peu chères. Donc gaz de schiste, charbon à volonté, etc. Et malgré tout, parce que leur environnement politique est stable, et parce que quand ils posent des questions, ils ont des réponses, aujourd'hui, ce sont des gens qui continuent à investir dans le nucléaire. Il y a des réacteurs en cours de construction, et en tout état de cause, ils veulent pérenniser leur activité. Donc si on extrapole ce modèle américain en France, il n'y a rien qui nous permettent de dire qu'il faut abandonner le nucléaire.
Eh bien, on suivra ça, bien entendu, un débat intéressant, effectivement, sur cette énergie. Merci, Éric Bonnel, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Mais je vous en prie. Bonne journée.